Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bien ordonné, là. D'introduction générale. Et je crois qu'on est arrivé à un point que je voudrais reprendre. Vous allez me dire si nous l'avons suffisamment étudié la dernière fois, c'est-à-dire au fond, dimanche dernier. Pas ce dimanche, celui d'avant. Quel? Bien, nous étions arrivés au point que la notion de tshuva renvoie à une expérience de la conscience qui n'est pas une donnée immédiate de la conscience naturelle. Et qu'il y a un chidouche qui apparaît avec cette dimension, qui est une dimension de la conscience hébraïque, et que la tshuva est possible. Et, comment dire, par la suite, la diffusion de l'enseignement biblique à partir de la conscience hébraïque fait que la conscience universelle connaît la notion de tshuva, mais elle ne fait pas partie des données immédiates, de ce que je vous appelle habituellement des données immédiates de la pensée naturelle. Est-ce que nous étions arrivés à ce point? Oui? Oui, rappelez-moi. Oui ou non? Non, oui, je n'entends pas. Oui? Quel? Alors, je vous rappelle rapidement à quel principe ça se relie. C'est que la conduite de la tshuva suppose la réversibilité du temps. Or, nous vivons dans un monde où la donnée apparemment scientifique, bien que la science moderne révise un peu ces concepts-là, mais c'est un autre problème. Disons, admettons que la donnée empirique, en tout cas, ou expérimentale, c'est que le temps est irréversible. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire que le temps est irréversible? C'est que le passé est du passé révolu, le futur, c'est du futur non encore accompli, non encore advenu. Et par conséquent, le comportement de la conscience dans la conduite de tshuva, dans la conduite de repentir, étant donné qu'il s'agit très littéralement, ce qui est exprimé très littéralement par le terme hébraïque, okay, du conduit de retour en arrière pour arranger quelque chose qui a été dérangé dans le passé, qui est devenu après l'acte de la faute, ça devient immédiatement du passé, et par conséquent le passé est révolu. Et donc, pour la pensée naturelle, l'idée, la notion que l'on peut revenir en arrière dans le temps pour faire un tikkun, une restauration de ce qui a été dévié, dévoyé, est une idée rebelle à la pensée naturelle. Et vous explorerez ça au niveau linguistique, au niveau du langage qui exprime la manière d'être homme propre à chaque culture, à chaque identité, à chaque manière d'être homme, si vous voulez, que dans toutes les langues, eh bien, il y a expression de l'irréversibilité du temps. Le passé, c'est le passé, le futur, c'est le futur. L'idée qu'un passé peut être remis en jeu dans le futur est une idée rebelle à l'être de nature. C'est clair? À la pensée naturelle. C'est clair jusque-là, c'est la première donnée. Je crois que c'est le plus évident dans les langues, finalement, qui sont sous-jacentes à la culture occidentale, donc le grec et le latin, mais surtout le grec, c'est vrai aussi dans le latin, surtout le grec. Qui d'entre vous a fait du grec? Personne? Alors dans le grec, et aussi, qui a fait du latin? Oui, alors là, je vous parlais un petit peu du latin. Vous avez cette notion d'un passé accompli complètement comme passé, qui s'appelle le parfait en latin. Okay? Et vous voyez cette idée que la perfection, c'est le passé accompli. Donc nous aurons à étudier cette notion en hébreu, où nous verrons que la conduite de la conscience hébraïque a une sensibilité tout à fait opposée. La notion de perfection, dans son sens latin, c'est le blasphème absolu pour la conscience hébraïque. Parfait en latin, ça veut dire complètement fait. Or, ce qui est complètement fait, achevé, est mort, impur. Alors qu'au contraire, pour l'occidental, cette notion du parfait, du fini, c'est le critère de la valeur. Pour la conscience hébraïque, c'est le contraire. Vous voyez comment l'identité juive s'est rendue impure, enfin, comment dire, dans le sens chimique du terme, s'est dénaturée en employant par traduction des concepts dont la signification, dont l'implication est radicalement opposée. Quand un juif parle en français ou dans une langue dérivée du latin du parfait, il ne se rend pas compte à quel point il dit le contraire de ce en quoi il est censé croire et se rattacher. Je vous donnais un petit exemple, je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés. Non, on n'est pas arrivé à l'histoire de Jacob et Ésaü. Okay. Bien, nous verrons que ce qui arrive à Ésaü et sa disqualification, c'est qu'il apparaît dans l'existence comme déjà complètement fait. Alors imaginez le monde de quelqu'un pour qui tout est donné d'emblée, radicalement achevé, à quoi passer le temps. Vous vous rappelez du problème du temps, okay. Alors pour quelqu'un qui est fait complètement, parfait, le temps, c'est l'ennui. Le temps ne peut mener qu'à la désespérance. Et vous voyez cette atmosphère de la culture occidentale qui part de l'idée que le parfait est à l'origine, et alors le temps, c'est le temps de l'absurde, c'est le temps de la désespérance, c'est le temps de l'ennui. Et comme vous savez, d'après la sagesse des nations, l'ennui est la mère de tous les vices. Et ils ne connaissent pas le tournevis. Et effectivement, vous verrez Rachi, déjà au moment où Ésaü naît, tellement achevé qu'il est poilu. Vous vous rappelez de cela, okay. Bon, ne faites pas, je vous répète toujours, n'identifiez pas avec des poilus connus. Et alors, Rachi, vous verrez vous-même dans le texte, cite pourquoi on l'a appelé Esav. Ésaü, parce qu'il est né Rassouille, complètement fait. Il est né achevé. Okay. Alors, vous voyez, sa relation à la destinée à travers le temps est une relation de désespérance. Okay. Et en particulier un verset que nous rencontrerons, je ne sais pas à quel trimestre, combien il nous reste de trimestre. Comme il dit lui-même, Inani Olef Ramut Lamalibro. Je vais à la mort, à quoi me sert le droit d'aînesse, enfin, c'est-à-dire la prêtrise. Okay. Vous voyez, pour lui, le temps, c'est le temps de la mort. Il est parfait à l'origine. Vous voyez, toutes ces civilisations qui, d'emblée, sont ce qu'elles sont. Et alors après, ça ne peut que se dégrader. Ça va à la mort. Okay. Vous voyez le sens inverse. C'est clair, cela. Et ce que l'on trouve dans beaucoup de personnages de ce genre, qui portent en eux simultanément l'exigence de la perfection et de la mort. Le symbole qu'on pourrait prendre, c'est la statue grecque. La statue grecque a toujours les yeux vides. Vous remarquez cela, hein, les yeux morts. Le parfait, le fini, s'avance. Le Maharal enseigne dans un de ses chapitres que là où le parfait s'installe, le Satan s'installe, l'impureté s'installe. Et vous voyez à quel point c'est une sensibilité absolument inverse de celle à laquelle on pourrait être habitué dans la culture occidentale. Okay. L'idée de Shlemut, en hébreu, qu'on traduit dans le dictionnaire par parfait, vous avez déjà appris ces mots-là, Shalem, Shlemut, okay. Eh bien, c'est pas du tout cette notion de parfait, du perfectum grec, latin, complètement fait, complètement achevé, fini. Okay. Le fini, vous voyez. Et vous habituerez par là à découvrir à travers ces problèmes qui sont des problèmes de base les secrets de la sensibilité juive et en quoi elle est différente de cette sensibilité qui voit déjà le parfait dans le passé, l'achevé, c'est ça la valeur. Or pour la sensibilité juive, l'achevé, tant que le temps dure, ne peut être que l'échec. Si le temps dure, qu'est-ce que ça veut dire si le temps dure? C'est-à-dire si le créateur n'est pas encore satisfait de l'état de son œuvre, en être satisfait, c'est l'impureté. Et vous voyez pourquoi il y a cette réaction de sensibilité différente. Un juif vivant ne peut qu'avoir qu'une réaction de dégoût devant une statue. Parce que c'est le fini. C'est le mort. C'est l'impur. Il n'y a d'achevé qu'un cadavre. Comme on dit, achever quelqu'un. Vous voyez le problème? Et je revois enfin dans ma mémoire, enfin, j'ai eu cette expérience-là comme élève de lycée, comme élève d'université, étudiant d'université, cette espèce d'incapacité de se faire comprendre d'un goy. Okay. Quand on est plongé dans cette atmosphère d'impureté, où la valeur, c'est l'achevé, le fini, le parfait, okay, et avec les mêmes mots, alors que l'hébreu veut dire le contraire. Je pense que c'est suffisamment clair. Bon. Vous sentez cela par vous-même, je suppose. L'achevé, c'est le figé, le hiératique. Vous connaissez ce mot en français ? Hiératique, ecclésiastique. Vous voyez, c'est une espèce de décorum du culte goy qui est, et on sent très bien, que c'est un culte de mort, un culte d'enterrement. Et d'ailleurs, ils adorent un dieu mort. C'est pas pour rien. Okay. Ça va ensemble. Et on rentre dans une... Je suis rentré une fois comme soldat en service commandé pour protéger, je sais plus quoi, c'était pendant la guerre. Et la seule fois de ma vie, je suis rentré dans une église, une de trop, et l'impression d'entrer dans un cimetière. Okay. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais tout de suite, le silence, l'obscurité, le figé, l'hiératique, la mort. Okay. Oui, alors quand les juifs s'assimilent et essayent d'imiter dans leur synagogue ce qui se passe dans les églises, ils ne réussissent pas. Dans tous les cas, vous voyez, parce que ce n'est pas fait pour l'identité juive, ce genre d'atmosphère de culte. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous êtes rentré une fois à la synagogue, la rue de la Victoire, on a tout de suite ce frisson, on est rentré dans une église. Et on voit les rabbins habillés en noir, et puis toute cette même atmosphère qu'on essaye d'imiter des goyim, mais qu'on ne réussit pas, heureusement. On ne peut pas réussir là-dedans. Ce n'est pas compatible avec l'esprit juif. Puis alors vous avez ces shamashim, là, les chambellans de Sa Majesté le Rabbin, les officiers de service, les huissiers, oui, oui, bon, mais ça, c'est pas grave, le chapeau qu'ils ont choisi, peu importe, mais c'est le fait de se prendre au sérieux, silence pendant la prière, okay. Alors qu'une prière juive, c'est autre chose, vous comprenez ce que je dis. Jamais on pourra réussir à faire d'une synagogue une église, c'est-à-dire les rabbins essayent de parler comme des curés, mais ils n'y arrivent pas. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, les juifs désertent les synagogues. Pourquoi? Ben, c'est pas parce que le culte n'est pas beau, c'est justement parce qu'il est trop beau. Okay. Enfin, j'exagère un peu, vous comprenez pourquoi. J'ai souvent parlé avec les gens du consistoire qui cherchaient une solution pour peupler les synagogues. Et là, enfin, je leur ai dit de façon très simple. Mais pourquoi les juifs ne vont plus à la synagogue? C'est parce qu'ils se sentent plus chez eux, tout simplement. Pourquoi les juifs désertent les synagogues? Ben, c'est plus les synagogues. C'est devenu des imitations d'autres choses, et parce que la notion du parfait a changé de sens. Est-ce que c'est clair? Le parfait, pour la sensibilité juive, c'est le vivant, c'est pas le hiératique. Vous comprenez un peu le mot de hiératique, ecclésiastique, figé comme ça, et ça, les goïms sont spécialistes. Leur psychodrame religieux, c'est un psychodrame de mort. C'est ça. Exact. Alors on les a eus, finalement. Bon. Vous comprenez donc ce qui se passe. D'où on était dérivé du temps passé absolu qui est le parfait. Oui. Alors que c'est une espèce de paradoxe. Ce passé qui n'est pas complètement achevé, qui s'appellera l'imparfait. L'imparfait permet la tshuva. Le temps de l'imparfait, mais le temps du parfait, c'est fini, c'est bloqué, c'est figé, comme Arlo. Okay. Vous voyez à quel point il a fallu des siècles et des siècles d'imprégnation hébraïque chez les goïms, à travers la diffusion de la Bible, et peu importe que ça ait passé par les chrétiens ou les juifs ou les musulmans en Orient, peu importe. Une diffusion de la conscience hébraïque qui a fait qu'on a entendu la notion de repentir, mais elle reste rebelle à la pensée naturelle. C'est un chidouche de la conscience hébraïque. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, cette idée que le mécanisme impersonnel du fonctionnement du monde peut être brisé, qu'on est devant quelqu'un dont la volonté intervient et que le temps peut être réversible. Eh bien, c'est radicalement extérieur au monde de la pensée naturelle, fut-elle la plus élaborée au niveau de la science, la philosophie. Okay, vous comprenez? Et en grec, si vous avez fait du grec, vous comprendriez pourquoi il y a une telle opposition entre le monde grec et le monde juif. Les latins ont été finalement les héritiers de cette querelle, mais c'est chez les grecs qu'elle est la plus évidente, en particulier sur ce problème. Beaucoup plus que le temps parfait des latins, il y a ce qu'on appelle en grec l'aoriste second, le passé absolu. Vous avez entendu ce terme-là une fois?
Le plus que parfait.
Le plus que parfait. alors que nous avons le plus que parfait du futur antérieur, c'est-à-dire un passé qui redevient futur. Et là, il y a une espèce de choc de sensibilité radicale. C'est clair jusque-là ? Bon, vous rattachez ça au fait de la langue hébraïque est la seule à posséder cette règle qu'un passé peut redevenir du futur.
Okay.
Oui, c'est un temps qui est inachevé, qui donc est un permanent continuel. Il y a une seule, ça c'est un des mystères des convergences, des intuitions de la langue anglaise avec l'hébreu. Vous savez que les Anglais se prétendent être les hommes de l'Alliance. Okay? Mais c'est pas tellement ça que je pensais. Je vous expliquais ça un jour, non ? Oui. Il y a une tradition chez les Anglais que la dynastie royale anglaise est la véritable dynastie d'Israël. Vous savez pas ça, non ? Que le roi d'Angleterre, dans les familles royales d'Angleterre, le fils aîné est toujours circoncis, et d'ailleurs par un rabbin. Vous savez pas ça ? Ah bon ? J'ai jamais remarqué comment souvent le nom de David revient dans les dynasties anglaises. Okay ? Ah non, vous savez pas ? Bon, je vais vous parler un peu de ça. Bon, il y a toute une tradition. C'est devenu du folklore, mais c'était très profond, surtout au Moyen-Âge, que les Anglais se prétendaient être le véritable Israël. Okay ? Alors, enfin, une des manières, enfin, c'est un peu farfelu tout ça, mais une espèce de prétention de la part de l'Angleterre. Regardez qu'il y a deux choses, deux données historiques auxquelles on ne prend pas toujours garde, mais qui sont ce qu'elles sont. D'une part, c'est que si la Bible a été diffusée surtout par les Anglais, vous avez remarqué cela, ce sont les missions anglaises qui ont diffusé la Bible dans toutes les langues. Okay. Et d'autre part, c'est quand même de la main des Anglais qu'on a reçu Eretz Israël. C'est pas par hasard. Okay. Oui. Et oui, ce sont des exemples de faits historiques massifs, tellement massifs qu'on ne les voit pas. Alors après, ça impressionne. Mais habituez-vous, rassurez-vous, les Anglais, ce n'est pas Israël. Il a fallu qu'on les fiche dehors de ce pays pour pouvoir y revenir. Bon.
Les Écossais disent que Scotland, c'est la terre des Souconnes.
Ah bon, c'est possible. D'ailleurs, j'ai entendu même que les Saxons prétendaient être les fils d'Isaac parce qu'ils Isaacsonnent. Mais tout ça c'est farfelu. Alors il y a une tradition des Anglais qui est restée, la tribu de Dan est remontée par le nord. Alors, la tribu de Dan, vous avez entendu parler des Danaïens, qui étaient un des peuples importants de la Grèce, non? Les Danaïdes, les Danaïens. Zeus, et Dona Ferentes. Et Danaïen. Et ensuite, par la vallée du Danube, suivez bien, ils sont arrivés au Danemark et ils ont conquis l'Angleterre. Alors ils se prétendent les descendants de la tribu de Dan. Vous voyez comment ça marche. Bon, ça c'est du folklore, hein, c'est complètement farfelu. Mais c'est pour vous indiquer à quel point il y a eu cette prétention chez les Britanniques. Et en particulier dans la famille des rois d'Angleterre qui se prétendent top. Vous savez, il y a une tradition chez les Anglais qu'il y aura autant de rois d'Angleterre qu'il y a de piliers dans la cathédrale de, je ne sais pas comment vous prononcez ça, c'est un mot ashkenaz que je ne sais pas prononcer, Westminster. Et Westminster. Alors il ne reste que deux poteaux. Vous savez, ils sculptent la tête de chaque roi sur les... Comment on appelle ça ? Au-dessus des colonnes et piliers. Okay. Il n'en reste que deux. Bon, il reste deux rois d'Angleterre, un pape et demi, et puis c'est fini. Okay. La pape ôtée. Pourquoi je vous ai parlé des Anglais ? Ah oui, il y a une forme dans la langue anglaise qui indique cela, c'est la forme progressive. Vous connaissez cela ? Être en train de faire quelque chose. C'est un peu cela, ce temps de l'inachevé qui qui transforme le passé en futur perpétuellement. Bon, ça a passé comme ça. Il faudrait, peut-être des spécialistes pourraient trouver quelle est l'origine de cette forme du participe anglais qu'on ne trouve pas dans les autres langues, mais c'est une catégorie. C'est là. Pardon, non.
I was in doing. Ça s'est contracté et c'est devenu après trop progressif. Mais en ancien anglais, on connaît l'évolution pour arriver à.
Très bien, mais le problème, c'est qu'il y a une mentalité qui a choisi cette façon de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a dans cette mentalité-là une ouverture à cette catégorie du temps réversible. C'est clair ? Bon, je referme cette parenthèse linguistique. Comment ça se rattache à notre problème ? C'est que je ne peux accepter la Torah comme charte de ma destinée qu'à cette clause que s'il y a faute, le repentir soit possible. Pourquoi ? Parce que, étant donné que je suis créé comme libre, comme donc capable de fauter, l'acceptation de la Torah comme charte qui va juger ma conduite, elle est très dangereuse. Parce qu'au premier acte de liberté, je risque la faute. Vous suivez ? Et donc, il y a une tendance naturelle chez l'homme, de nature, quel que soit le caractère sophistiqué de sa culture, qu'elle. Quand je dis l'homme de nature, je répète encore, ce n'est pas le sauvage primitif, c'est le philosophe de la Grèce, okay, pour qui il n'y a pas eu de révélation et pour qui la pensée est un fonctionnement naturel, le plus élaboré soit-il, mais il reste dans l'ordre des catégories de l'être de nature. Et par conséquent, on trouve de façon générale qu'aucune culture ne va accepter ce qu'Israël accepte au Sinaï, c'est-à-dire que la loi morale soit la charte de la destinée. Et c'est pourquoi partout ailleurs, la morale et la religion sont séparées. Il y a des liens, mais c'est deux principes différents. Okay ? La conscience religieuse et la conscience morale ne s'identifient que dans la conscience hébraïque. C'est ça la grande différence entre Israël et les nations par rapport à ce problème. Il y en a d'autres, okay ? Mais par rapport à ce problème. D'ailleurs, l'idée que le sens religieux de ma destinée est jugé par la loi morale est une idée épouvantable pour la pensée naturelle. Ça veut dire, la première faute, je suis damné. Vous suivez ? Alors, une telle position, c'est la position de la conscience qui ne peut pas envisager l'éventualité du repentir. C'est pourquoi il y a un des midrashim qui enseigne que la dernière chose que Dieu a créée avant de créer le monde, c'est la tshuva. Enfin, tout est difficile dans cette formule. C'est plein d'humour, d'ailleurs. La dernière chose que Dieu a créée avant de créer le monde, c'est la tshuva. C'est-à-dire, le monde ne peut fonctionner que si la tshuva est possible. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. Vous suivez ? Et c'est clair jusque-là ? Bon. Non, non, la tshuva avant le monde. Le ? Avant la tshuva ? Non. C'est-à-dire, le monde qui va être créé, c'est le monde du bien et du mal. Bon, on ne peut être sauvé de ce problème que si la tshuva est possible. Et par conséquent, avant de créer le monde, Dieu rend la possibilité de la tshuva possible. Dieu rend la tshuva possible. Bon. Il y a sept choses, on étudiera si on a le temps, un midrash qui explique qu'il y a sept choses qui sont créées avant que le monde ne soit créé. Six est la septième, et la septième, c'est la tshuva. Bon. C'est-à-dire, je vais vous donner une formule. Le monde dans lequel nous sommes, selon l'enseignement de la Torah, n'est pas « ne faute pas, et si tu fautes, tu es perdu », mais ne faute pas, et si tu fautes, repens-toi. Oui, c'est une formule très différente. Okay. Est-ce que c'est clair ? Bon. Par conséquent, on ne peut aborder ce problème que dans une bonne foi absolue. Celui qui dit, bon, je vais fauter, parce que je sais que je peux me repentir, celui-là n'aura jamais l'occasion de se repentir. Et nous verrons dans la suite de l'étude que la chose la plus difficile au monde, c'est un vrai repentir. C'est très difficile. Alors la Gemara explique ça comme ça, on ne l'aidera pas à se repentir. S'il se repent, on l'accepte, à condition que le repentir soit sincère. Et nous allons voir tout de suite quelle est la clause qui montre que le repentir est sincère. Mais on ne l'aidera pas à se repentir. Il y a deux niveaux du repentir, qu'on appelle en hébreu « Meira ou Me'ava ». Le repentir par crainte ou le repentir par amour de la vérité morale. Et le repentir authentique, c'est le deuxième, c'est le repentir par amour. Et il est très rare. En général, on est aidé par le jeu de la vie à être acculés à se repentir. Il faut en sortir. On est dans une situation telle de issourine, de souffrance, de, comment dire, de issourine, d'épreuve morale, que finalement, on consent à se repentir. On est aidé. Okay? Mais se repentir de façon autonome, sui generis, par soi-même, par amour de la vérité morale, ça c'est très rare, et c'est le véritable repentir. Et voilà la règle que dans la Gemara. Le signe qu'un repentir est vrai, c'est que c'est la dernière fois qu'on se repent. C'est clair. Quand c'est la dernière fois qu'on se repent, ça veut dire que le repentir est sincère. Alors comment on va le savoir? Okay. Eh bien, on sait. Il y a au moins une personne que personne ne peut tromper, c'est soi-même. On sait très bien, dans la conduite du repentir, si elle est avec réserve ou si elle est définitive. Si c'est la dernière fois. Vous suivez? Oui, j'y reviendrai, mais j'ai indiqué tout à l'heure que c'est reçu de la conscience hébraïque. Okay. Pas seulement chez les chrétiens, chez tout homme de bonne volonté morale. Okay. La conduite du repentir est maintenant intégrée. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'elle ne fait pas partie de la pensée naturelle. Okay. Et nous verrons d'ailleurs que... Non, je ne vais pas parler du christianisme aujourd'hui. Continuons l'analyse. Enfin, toute l'hérésie chrétienne sort d'un enseignement de Saint Paul, comme ils disent, que la loi me condamne, la loi me damne, que à la première des fautes, je suis damné. Okay. Et par conséquent, c'est pas par l'accomplissement de la loi que je serai sauvé, donc il faut une toute autre stratégie, qui est, pour la conscience hébraïque, c'est très simple, elle est magique, cette stratégie, okay, que Dieu envoie son fils se faire crucifier, d'après par les juifs, en réalité par les romains, pour sauver le monde, en fait, une stratégie magique de la conscience magique, parce que de quoi il faut être sauvé, d'après la conscience chrétienne, à partir de Saint Paul, il faut être sauvé du problème moral, parce que je ne peux pas résoudre le problème moral, à chaque acte de vie, je fais une faute. Le mot de Haïm commence par la lettre Het. Remarquez cela. Okay. Qu'est-ce que nous raconte l'histoire de la Torah? Le premier acte de l'histoire humaine, c'est une faute. Et alors, si on ne peut pas se repentir, on est perdu. Vous voyez, cette conscience de Saint Paul n'est pas du tout une conscience juive, c'est une conscience grecque. C'est un faux juif. C'est un juif assimilé à la culture grecque. Okay. Et il fonctionne à la manière grecque. La loi est absolument impersonnel, irréversible, à la première faute, je suis damné. Vous suivez? Bon. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela, lorsqu'on étudie attentivement ce problème de la relation à la loi chez la conscience chrétienne, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une conscience athée. Okay? Athée, complètement. Ça veut dire que nous sommes en présence d'un impersonnel, la loi, qui nous écrase. Okay? Et pourquoi je dis que c'est une relation athée? Parce que ça veut dire qu'il n'arrive pas à concevoir que cette loi, la loi morale absolue, c'est l'expression de la volonté de quelqu'un avec qui je suis en relation dans le repentir. Par rapport à la loi, je n'ai pas de relation de repentir. La loi reste ce qu'elle est, ma faute reste ce qu'elle est. Okay? Si la loi n'est qu'un impersonnel de type logos, comme dit les évangiles, au commencement était le logos, si vous comprenez le sens philosophique de cet terme, ça veut dire la loi impersonnelle, bien par rapport à la loi impersonnelle, je ne peux pas me justifier. Okay? Or, comme la loi est absolue et parfaite, et pas libre, mais moi je suis libre. Parce que je suis libre, je suis capable de faute, peccable, comme on dit en français. L'erreur des chrétiens, c'est de dire que nous naissons pécheurs. Nous naissons en faute. C'est faux, c'est une faute. Nous naissons peccables, c'est-à-dire capables de faute. Nous naissons libres. Vous voyez qu'il y a une toute autre relation à ce problème. Et parce que nous naissons libres, nous risquons de fauter, et par conséquent, ce serait terrible d'accepter la loi morale comme charte de ma destinée si je n'ai pas la clause du repentir. Et comme c'est une conscience qui était incapable de comprendre la clause du repentir, on a refusé la Torah. C'est clair? On a refusé la Torah comment? Pas pour refuser la Torah, puisque prenons le cas des chrétiens, qui est un cas privilégié dans ce problème. Les chrétiens savent, professent, croient, disent que la Torah de Moïse, c'est la vraie loi que Dieu a révélée. Ils croient dans l'Ancien Testament, comme il dit. Et pourtant, on est incapable de la pratiquer. La preuve, c'est que même les Juifs sont incapables. Il y a ici un machiavélisme antisémite extraordinaire. Et alors, une fois, j'ai demandé à un jésuite, mais alors, s'il en est ainsi, pourquoi Dieu nous a révélé cette Torah qui savait, d'après vous, qu'on ne peut pas pratiquer? La réponse est extraordinaire. C'est pour que nous sachions à quel point nous sommes incapables de pratiquer la vraie loi. Alors il nous l'a révélé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Et alors, il est évident qu'il y a là, derrière, une position athée. Ça veut dire, on croit que l'absolu moral, c'est la loi. On ne croit pas qu'il y a un Dieu, un quelqu'un, une volonté qui a exprimé sa volonté dans la loi. Alors on n'est pas en relation avec le Dieu le Père, comme ils disent, duquel ils ont une terreur panique absolue. Okay. Et vous voyez de quelle névrose sort le christianisme. Okay. C'est la religion du Fils qui a peur du Père. Okay. Et alors, quelqu'un qui a peur du Père, et c'est un problème pour psychiatre, pas pour prêtre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça se guérit. C'est une névrose. C'est une névrose à l'échelle des cultures. Cette espèce de rencontre avec la loi, qui est la rencontre terrible de la coercition. Okay. On est persécuté par la loi. Okay. C'est ce qu'il y a derrière la loi, c'est-à-dire la volonté du Père. Vous voyez ce qu'il y a derrière, okay. Et alors, ce Dieu terrible de la loi morale, qui est le Dieu jaloux, qui est le Dieu de la colère, qui est le Dieu de la loi, le Dieu le Père, vous voyez tout ce qu'il y a derrière dans cette névrose chrétienne. Alors on va faire alliance avec le Fils contre le Père. Et c'est une position athée, okay, et qui est très reliée à cette incapacité de concevoir que le repentir est possible. Vous suivez? Bon. Et alors, ils ont un Dieu magique, qui est ce Dieu le Fils, qui va apaiser la colère du Père en acceptant le sacrifice pour le salut du monde. Et c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que voulait le Père? Tuer son Fils. C'est de ce Père-là qu'on avait peur. Alors on le fait fonctionner comme ça. Vous suivez? Okay. Bon. Alors là... où est-ce que j'étais? Chaque fois que je pense à cette Tmeïm, là, je m'envole. De quoi on parlait juste avant? Eh bien oui, la tshuva est la clause indispensable pour que je puisse accepter la Torah comme charte de ma destinée. Alors il y a un midrash que vous connaissez, dont vous avez sûrement entendu parler, que je vais vous reprendre par rapport à ce problème, que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Et une après l'autre, elles l'ont refusée. Alors il a suscité, à partir d'Abraham, un peuple capable de recevoir la Torah. Oui, vous suivez le problème? Bon, alors, mais je vais vous reprendre le Midrash un peu en détail. Parce que quand vous l'étudierez dans le texte, quand vous en aurez l'occasion, vous verrez que le Midrash est très précis. C'est-à-dire, on nous donne des exemples. Et précisément, les exemples sont pris dans toutes ces identités rivales de l'identité Israël. Ces approximations qui se sont instaurées comme rivalité. Par exemple, la Torah est proposé à Ishmaël dans ce midrash. Alors Ishmaël demande, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Et Dieu répond, il y a écrit, tu ne voleras pas. Et Ishmaël répond, je ne peux pas. C'est-à-dire, je ne peux pas recevoir toute la Torah à cause de ce commandement-là. Et après, je vais donner d'autres exemples et expliquer après. Il le propose à Esav. Et Esav demande, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Il y a écrit, tu ne tueras pas. Tu connais ce midrash? Alors, Esav répond, ça, je ne peux pas. Pourquoi? Et on trouve dans la Torah, effectivement, dans le récit historique, que l'identité de Esav se définit par le meurtre, l'identité de Ishmaël se définit par le vol. J'expliquerai ça quand on rentrera les versets. Et, par exemple, la bénédiction que va recevoir Esaü, c'est « Ve'al harbecha t'chie, tu vivras de ton épée ». Alors, Dieu s'adresse à Esaü, ce même Esaü qui a reçu comme bénédiction d'identité, « Tu vivras par ton épée, homme. Okay » et il lui dit, « Est-ce que tu acceptes ma Torah ?» Alors, Esaü répond, Je voudrais bien, mais il y a un commandement dans ta Torah que je ne peux pas accepter, c'est tu ne tueras pas, puisque tu m'as créé comme ça, enfin j'interprète un peu, puisque c'est ça ma nature, que je vis de l'épée. Alors comment je vais accepter ta Torah? Si je l'accepte, je suis perdu. Ça veut dire que les goyim qui ont refusé la Torah, ils n'ont pas refusé la Torah pour refuser la Torah, mais à cause d'une mitzvah qui est incompatible avec leur manière d'être. Est-ce que c'est clair? Et là, on comprend ce que veut dire saint Paul. Si j'accepte une Torah, alors que je sais que je ne peux que la violer par nature, je suis perdu. Donc, il vaut mieux que je n'accepte pas la Torah. Et vous voyez, en quoi cette espèce d'attitude chrétienne vis-à-vis de la loi, elle vient de l'extérieur. Ça ne sort pas du judaïsme. Le juif sait très bien que, même s'il y a faute, il peut y avoir salut s'il y a repentir. Vous voyez la différence? Oui. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'atmosphère de cette nouvelle religion qui apparaît avec les évangiles ne sort pas du judaïsme. C'est la projection de la mentalité gréco-romaine dans la Bible. Bon, mais ça, nous parlerons après, quand on s'occupera des Aïe. Qu'est-ce que tu voulais?
Les goyim ont pas eu le choix d'accepter la
Torah. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié le point précédent. Ça veut dire que sur ce point-là, ça sera très difficile pour eux, suivant les peuples. Mais, oui, mais voilà, le problème c'est que le repentir est possible. Barbarou, puisqu'il y a la clause du repentir.
Mais l'introduire repentir,
ça c'est un autre problème, tout ce qui va avec le repentir. Mais, Barbarou, mais il faut expier les conséquences de ce qu'on a fait. Mais le repentir revirginise la conscience, nous rend de nouveau purs, tzadiques. Oui, donc il faut le payer. Mais on est redevenu tzaddik par le repentir. Vous savez?
Vous savez pas l'existence du repentir?
J'entends pas. Comment?
L'existence du repentir
des autres peuples. Justement, n'oubliez pas ce qui se passe avant. C'est ce qu'on a dit au début du cours. Okay? À la longue, ça va, cette notion que le repentir est possible va être reçue, mais sur un récard qui, profondément, par nature, le refuse. L'idée que le repentir soit facile. Regardez ce qui se passe dans la conscience chrétienne. D'ailleurs, saint Paul le dit dans un de ses versets, je crois que c'est l'Épître aux Romains ou les Actes des Apôtres, je ne sais plus, peu importe. Il dit ceci, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je suis damné, je suis né damné. Par conséquent, ce n'est pas par la loi morale que je peux être sauvé, puisque je suis incapable. Or, il faut que je sois sauvé. Et donc, l'exigence d'être sauvé leur fait inventer cette stratégie du fils acceptant de se sacrifier pour que le père ne soit plus courroucé. Vous voyez cette espèce de monde religieux épouvantablement impur. Hein? C'est une religion de traumatiser. Hein? De traumatiser par la loi et par le visage du père. Alors, quand il y a une relation de terreur avec le visage du père, c'est ou bien que le père, c'était pas un père, ou bien c'est que le fils est malade. Mais en tout cas, ça se soigne. Et je crois très sincèrement, le christianisme, ça se soigne. vous comprenez le problème? C'est-à-dire, ils n'ont comme visage du père que le visage du juge. Mais ils oublient que le créateur, qui est le juge, n'est pas que le juge, il est le père. Mais je voudrais vous dire que ces choses-là, il faut les comprendre de la manière la plus élémentaire, simple. À la limite, presque enfantine. Okay? On n'a pas peur du père. Et si on a peur du père, c'est faire quelque chose qui tourne pas rond. Okay? Alors que ça se soigne. Mais vous voyez, qu'est-ce qui peut sortir comme mouvement culturel d'une névrose au niveau de la loi morale? La loi morale, c'est la volonté du père. Alors donc, la religion du père, ça, c'est le Dieu terrible, Dieu le père. Vous voyez ce qui se passe? Quel est le problème qu'il y a au fond? La relation à la loi morale, l'incapacité d'intégrer vraiment que le repentir est possible. Et le chrétien a une conscience très aiguë, très tragique, qu'en tant que créature, il est damné. Et que pour s'en sortir, quelle que soit sa bonne volonté, il sait très bien qu'il ne peut pas accomplir la Torah, comme disent les juifs, et la preuve, même les juifs. Et donc, il faut bien être sauvé. Alors, comment être sauvé? Eh bien, on est sauvé par cette stratégie magique qui revient des paganismes antiques, des religions à sauveur. Okay? le fils qui se sacrifie pour que... Donc. Et la... Bon, je reviens à ce point principal, c'est incapacité de maîtriser la notion de la réversibilité du temps, que le passé peut redevenir un futur. Le Rav Kook nous a enseigné un verset à propos de Toubi Shvat d'ailleurs, qui est dans la paracha de Kitavo. Ve'aya, Kitavo el haaretz. Et il arrivera quand tu viendras dans le pays. Je voudrais quand même vous donner la référence du verset. Eh bien, c'est dans Dvarim, lequel. Vous allez prendre la référence. Alors, je vais écrire. Donnez-moi un livre de Dvarim. C'est le chapitre. C'est le chapitre 26. Le premier verset du chapitre 26. Veya qui t'avoue la haaretz. Et il arrivera quand tu viendras dans le pays. Page 120 dans vos livres comme ça. Bon, avançons un peu vite parce que j'ai pas encore commencé le cours que je voulais vous faire. Et donc, Veaya, vous voyez le mot Veaya. Okay. Alors, la règle que nous donne le Talmud, c'est que chaque fois qu'un texte commence par Vaïhi, c'est une catastrophe. Okay. Ça. Pourquoi ? Parce que Yehi, le futur, est transformé en passé, Vayi. Mais chaque fois qu'un texte commence par Veaya, c'est Psora Tova, c'est Simcha, c'est une joie, un bonheur. Pourquoi ? Haya, qu'un passé devient un futur, c'est ça la définition de la joie. Okay ? Veaya. Quand il fait lire Pshat, Veaya, tout ce que la Torah a promis, Veaya, 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 ça s'accomplit quand ? Kitavo et Laaretz. Quand tu viendras dans le pays. Vous voyez cette... inversion du passé en futur. Vous suivez ? Bon. Il y a quelque chose de plus que je voudrais vous ajouter. Comment le texte aurait dû dire ? On est dans le désert, là. Et la Torah dit, il arrivera quand tu viendras dans le pays. Elle aurait dû dire, quand tu iras dans le pays. En hébreu, Kitelech. La Torah est donnée au désert. Et elle parle d'Eretz Israël. Alors elle devrait dire Veaya qui t'élèche et la arrête. Elle dit Veaya qui t'avoue et la arrête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, il n'y a d'autre Torah que la Torah d'Eretz Israël. Cette voix qui parle, elle parle en Eretz Israël. Et elle dit à ceux qui sont dans le désert, et il arrivera quand tu viendras chez moi. Qui t'avoue ? Ça y est, c'est clair ? C'est arrivé comme ça. Okay. Mais d'une certaine façon, cette Torah qui est donnée dans le désert, elle parle de Jérusalem. Elle parle de Eretz Israël. Qui mitzion, tête cette Torah, ou de Varachem Yerushalayim. Et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs, en particulier Judas Lévi, se basent sur ce verset pour établir que le Sinaï fait partie d'Eretz Israël. Puisque la Torah a été donnée au Sinaï, et qui a écrit qui mitzion, tête cette Torah, donc le Sinaï, c'est Tzion. Oui. Pour le moment, on est en train de faire un jeu de va-et-vient, mais ce n'est pas fini. Ken. Tiens, je ne parle pas. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, c'est un autre problème. Mais, vous voyez, vous baserez sur Kitavo. Ken. Veaya, Kitavo, et là. Tout ce qu'il y a dans le Veaya, les promesses, c'est Ken. Un peu, c'est-à-dire que Abraham est dans l'exil et la Shrina est avec lui dans l'exil et s'adresse à lui de l'exil en lui disant Lech Lecha pour toi. Okay. C'est Abraham qui doit réaliser le Lech, sortir. Mais là, ici, nous sommes au désert, ils sont déjà sortis de l'Égypte. Bon, bien. Alors écoutez, voilà le chapitre que nous devons étudier, c'est le chapitre 30. Et on a très peu de temps encore aujourd'hui, enfin je compléterai un peu cela dimanche. Alors écoutez, vous allez prendre 10 minutes pour lire ce chapitre et je reviens tout de suite. Le téléphone n'a pas encore sonné ?
Non,
c'est rien ? J'entends pas.
Je veux dire, c'est
question de... Oui, effectivement. Et alors ensuite, je vais lire avec vous quelques versets dont nous avons besoin. Mais vous lirez attentivement par vous-même tout le chapitre. Prenez le verset 11, qui a mitzvah azot, asher anochi metzavecha hayom, car cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, et vous voyez, jusqu'à présent, il y a ambiguïté. De quoi s'agit-il vraiment ? De la tshuva par rapport à la Torah, par rapport à la volonté de Dieu, les mitzvot, ou de Shiva Tzion, de revenir à Tzion. Vous avez eu tout le contexte. Et quand tu seras dans l'exil et que tous ces malheurs-là te seront arrivés, tu te repentiras et tu reviendras. Et vous voyez, les deux indications s'entremêlent. Comme quoi, la tshuva et Shiva Tzion, aujourd'hui on dira la Aliyah, c'est la même chose. Vous suivez ?